Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 16 octobre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports et comme chaque jeudi, le journal de l'économie. Et d'abord les titres du journal de ce jeudi. Les camions d'aide humanitaire continuent d'affluer vers Gaza et Israël. Israël avait auparavant menacé de maintenir fermé le point de passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte et de réduire drastiquement l'aide humanitaire, estimant que le Hamas restituait les corps des otages trop lentement. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré avoir reçu 45 corps palestiniens supplémentaires d'Israël portant des traces de, je cite, « torture et d'exécution ». Selon des experts juridiques, le fait que la Nouvelle-Galles du Sud ait atteint un niveau record de décès de membres des Premières Nations en détention, eh bien cette nouvelle devrait alerter les gouvernements. Et on passe au journal de ce jeudi. Les camions d'aide humanitaire continuent d'affluer vers Gaza et Israël. Israël avait auparavant menacé de maintenir fermé le point de passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte et de réduire drastiquement l'aide humanitaire, estimant que le Hamas restituait les corps des otages trop lentement. Le Hamas a restitué 4 corps lundi et 4 autres mardi soir, bien que les autorités israéliennes affirment que l'un d'eux n'était pas celui d'un otage. Cependant, le Hamas a restitué d'autres corps israéliens dans la nuit d'hier et un responsable de la sécurité israélienne a indiqué que des préparatifs étaient en cours pour rouvrir Rafah aux citoyens gazaouis. L'autorité palestinienne a déclaré que l'organisation était prête à gérer le point de passage de Gaza tout en exprimant des inquiétudes quant à la reconstruction de l'enclave dévastée. Précision de Abla Jouanidi pour Radio France Internationale.
Ce point de passage, c'est un accès vital au monde extérieur pour la population de Gaza. Il est surtout essentiel pour les évacuations humanitaires qui se faisaient au compte-gouttes jusqu'à mars dernier avant d'être complètement interrompues par Israël. C'est donc une énorme déception aujourd'hui pour la population de voir cette ouverture repoussée, notamment pour ceux qui ont désespérément besoin d'être soignés à l'étranger. Ils sont nombreux dans l'enclave. 15 000 attendent une évacuation d'urgence, rappelle l'ONU. Le système de santé de Gaza est en ruine, comme quasiment toutes les infrastructures. En attendant la rouverture par Israël, les opérateurs de ce point vital se disent prêts. Côté palestinien, le gouvernement de Mahmoud Abbas fait savoir qu'il est disposé à reprendre sa place dans le dispositif. L'Union européenne, elle, dans son rôle de partie neutre, se tient prête à y installer ses gendarmes de l'EBAM, sa mission d'assistance aux frontières. Il faut rappeler que Rafah a été dévastée par les bombardements israéliens, si bien que les camions de marchandises n'entrent plus par Rafah, mais par deux autres postes frontières côté israélien, Kerem Shalom et Kisoufim. 300 camions d'aide y ont transité aujourd'hui, loin des 600 attendus.
Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré avoir reçu 45 corps palestiniens supplémentaires d'Israël, portant des traces, je cite, de torture et d'exécution. Selon Sameh Hamad, responsable du ministère de la Santé à Gaza, ces informations accentuent la pression sur le cessez-le-feu visant à mettre fin à 2 ans de guerre. On ignore si les victimes sont mortes en détention israélienne ou si elles ont été emmenées de Gaza par les troupes israéliennes.
The bodies that were received yesterday bear signs of abuse. What we saw with our own eyes, their hands and feet are cuffed and their eyes are blindfolded. We also saw clear signs and marks of torture and execution. This was yesterday. Today an examination is underway and work is underway on these pure bodies. And we are working to uncover these crimes that were committed against the owners of those bodies.
على كشف هذه الجرائم التي ارتكبت بحق أصحاب هذه الجثامين.
Les États-Unis espèrent entraîner l'Australie dans une bataille commerciale avec la Chine pour le contrôle de l'approvisionnement mondial en minéraux critiques. La Chine domine la chaîne d'approvisionnement et a annoncé la semaine dernière son intention d'introduire des restrictions plus strictes à l'exportation pour les métaux des terres rares. Ces minéraux sont essentiels à des produits comme les véhicules électriques, mais aussi aux technologies de défense, notamment les missiles et les avions de chasse. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré à la chaîne américaine CNBC que les États-Unis chercheraient le soutien des alliés comme l'Australie pour contrer les plans de la Chine.
This is China versus the world. It's not a US-China problem. We're going to be speaking with our European allies, with Australia, with Canada, with India, and the Asian democracies, and we're going to have a fulsome group response to this because bureaucrats in China cannot manage the supply chain or the manufacturing process for the rest of the world.
Selon des experts juridiques en Australie, le fait que la Nouvelle-Galles du Sud ait atteint un niveau record de décès de membres des Premières Nations en détention, cela devrait alerter les gouvernements. Ces propos font suite à la révélation par la coroner de l'État, Teresa O'Sullivan, d'un triste bilan. 12 aborigènes et insulaires du détroit de Torres sont décédés en détention cette année, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré en une seule année. Elle a également souligné les derniers chiffres du Bureau des statistiques et de la recherche criminelle de Nouvelle-Galles du Sud qui montrent que le nombre de personnes autochtones en détention a augmenté de 19%, tandis que celui des non-autochtones a diminué de 12%. Près de la moitié des membres des Premières Nations en détention sont en détention provisoire et attendent toujours leur procès. Carly Warner du service juridique aborigène affirme que chacun de ces décès a des répercussions considérables au sein de la communauté.
The families and communities are going to continue to feel these scars very deeply for years and generations to come. It is absolutely a horrifying record. This is the inevitable consequence of the New South Wales government driving up incarceration of Aboriginal and Torres Strait Islander women and children and men. And this is something that we've been warning them about for a long time.
Le ministère australien de la Défense a été critiqué par une association de l'industrie de la défense pour ne pas avoir pris en compte les entreprises australiennes lors du déploiement de l'accord AUKUS sur les sous-marins. Mike Johnson, directeur général du réseau australien de l'industrie et de la défense, a déclaré au National Press Club que de nombreuses entreprises locales passent à côté d'opportunités alors que l'Australie dépense des milliards de dollars aux États-Unis et au Royaume-Uni pour accélérer la fabrication de sous-marins. Il appelle le ministère de la Défense à établir un quota de contrats réservés aux entreprises australiennes avant de se tourner vers l'étranger.
I mean, if government can afford to spend almost $10 billion on US and UK industry, then surely it can find the dollars to adequately fund Australian defence industry and the capabilities Australia needs. This is felt acutely by the Australian-owned and operated SME sector, who sees spending cuts to domestic maintenance budgets and non-AUKUS programs.
À Madagascar, le colonel Ranjanirin est aux commandes après le départ du président Rajoel. Après l'annonce du coup de force militaire, les militaires chargés de diriger le pays durant une période transitoire estimée entre 18 et 24 mois jusqu'à un référendum constitutionnel. Les ministres de la Défense de l'Alliance de l'OTAN se sont réunis hier dans le but d'établir un mur anti-drone pour protéger les pays membres des incursions de drones. Ces incidents font suite à l'entrée d'une vingtaine de drones russes dans l'espace aérien polonais le mois dernier et à des incidents de drones signalés au-dessus d'aéroports danois et allemands dans les semaines suivantes. Après avoir rencontré les ministres de la Défense des pays membres, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré que le renforcement des mesures de sécurité des pays membres était une priorité, tandis que le soutien à l'Ukraine se poursuivait.
Today we will touch on what happened just recently, the drones, how to make sure that we can do even more to protect NATO against also these new developments. And one of the issues we were discussing is this new program where the United States is again delivering essential lethal and non-lethal military support to Ukraine, including air defense systems and particularly interceptors, important for Ukraine to make sure that their civilian population, their crucial infrastructure is as protected as possible.
Le bureau de la météo exhorte les Australiens du sud et de l'est à se préparer aux vents violents et aux tempêtes des prochains jours. Un creux traverse le sud de l'Australie et se glisse vers le sud-est. Il devrait rencontrer un front froid qui traverse la Tasmanie. Certaines régions d'Australie méridionale, du Victoria et de la Tasmanie devraient connaître des vents chauds et soufflants en rafale au cours des prochains jours. Miriam Bradbury du bureau de la météo indique que le creux devrait se déplacer vers l'est et provoquer des orages et des vents violents dans certaines régions de la Nouvelle-Galles du Sud. Et on passe à la météo pour ce jeudi en Australie. À Perth, il fera 25 degrés. Adélaïde, 28. Melbourne, 31. Hobart, 26. Canberra, 28. Sydney, 28. Brisbane, 26. Darwin, 35. Et à Alice Springs, maximal de 37 degrés. Fin du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Écoutez le programme en français et on passe maintenant au journal des sports et vous êtes en compagnie de Christophe Mallet.
Journal des sports, et on débute avec du football et la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Le Maroc a battu la France en demi-finale donc de cette Coupe du Monde au tir au but. Une superbe victoire avec un pays qui confirme sa progression dans le football mondial. On écoute le sélectionneur marocain Mohamed Wabdi.
C'est ce que je disais, en fait, ce qui était important, c'est qu'on reste un petit peu comme on a fait depuis le début. On voulait aussi un peu les agresser. Les joueurs aussi ont décidé d'aller un peu plus haut, les agresser dès le début du match. Ça a bien marché parce qu'on s'est créé des occasions. Et puis après, on s'est un peu fatigué. On a commencé à laisser des espaces. Donc on a dû se recalmer à la mi-temps. Il fallait vraiment qu'on se calme et qu'on joue avec sa tête. Et on a vu quand même qu'on a eu des grosses occasions, qu'on a su maîtriser. Il y avait eu des moments forts, des moments faibles. C'est normal, c'est une demi-finale. Mais on est resté très solide. Donc moi, je suis très fier, très content. Et je suis très fier aussi pour eux parce que depuis le début, ils disent, et on leur dit de jouer pour le peuple, on leur dit de jouer pour notre Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et pour tous les gens qui les encouragent, tous les gens qui sont derrière eux. Et moi, ce que je leur ai dit avant, c'est de jouer ce match aussi pour eux, parce qu'ils méritent de jouer une finale. Donc c'est important qu'ils pensaient aussi à eux, de faire un bon match pour pouvoir jouer une finale de Coupe du Monde. Et c'est, voilà, c'est la première fois, ils en sont conscients. Et maintenant, on va juste de nouveau se calmer, parce que c'est très bien ce qu'on fait, mais vraiment l'objectif, c'est qu'on puisse rentrer avec la Coupe. Le trophée est là. Il a un match à nous à bien récupérer et Inch'Allah aller chercher ce trophée avec le même état d'esprit, avec la même confiance et toujours avec la même humilité Inch'Allah.
Mohamed Wabdi donc, le sélectionneur marocain, sur la qualification de son équipe, de ses jeunes de moins de 20 ans dans la finale donc de cette Coupe du Monde de la FIFA. Allez, on parle maintenant de la Coupe du Monde qui aura lieu l'année prochaine aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les qualifications pour la zone Afrique, c'est terminé, c'est complété pour la première phase et on fait le point complet avec Sofiane Amazian.
Les 9 heureux élus qui seront du voyage sur le continent américain l'été prochain. Il restait 3 tickets à composter hier lors de la 10e et dernière journée des éliminatoires et parmi les grands gagnants, allez d'abord le Sénégal, les Lions de la Teranga qui terminent premier de leur groupe après leur belle victoire du côté de Diam Niadio 4-0 face à la Mauritanie grâce notamment au doublé du patron de cette sélection, Sadio Mané. Puis en plus du Sénégal, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, sera également du voyage après sa victoire 3-0, c'était face au Kenya. Mission accomplie donc pour l'attaquant Sébastien Haller, on l'écoute.
C'est l'aboutissement d'un rêve pour beaucoup, je pense. Quand on commence à jouer au foot, c'est pour ce genre de moment, de pouvoir se qualifier pour le mondial. Donc c'est juste positif, on est juste heureux et satisfait d'avoir pu finir le job aujourd'hui. Je pense qu'on l'a vu tout au long de la campagne, le sérieux, la concentration qu'on avait au niveau défensif. C'est à mettre sur le crédit des défenseurs, bien sûr, en première part, et le gardien. Je suis fier du travail des gars et aussi de toute l'équipe qui a pu ne pas encaisser de but.
Et oui, 0 but encaissé en 10 matchs pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Sébastien Haller qui était au micro de Molamine Sissavane. Et la petite surprise, eh bien, c'est pour l'Afrique du Sud, deuxième à 2 points du Bénin avant la 10e journée, qui après sa victoire 3-0 face au Rwanda, cumulée à la défaite des Béninois au Nigeria, eh bien, les Sud-Africains retrouvent le mondial, et cela pour la première fois depuis 2010. Les 6 autres qualifiés directs, comme ça, on les a tous. Maroc, Algérie, Égypte, Cap-Vert, Ghana et puis Tunisie.
Sofiane Amazian, donc pour RFI, alors vous l'aurez compris, c'est la joie dans plusieurs pays en Afrique, on l'a vu, et si vous ne l'avez pas vu, allez sur les réseaux sociaux pour voir ce qui s'est passé au Cap-Vert, c'était juste incroyable. Direction l'Afrique du Sud maintenant, et c'est du sourire un peu partout, Valentin Hugues.
Au lendemain de cette qualification sud-africaine, dans le quartier de Soweto, tout le monde parle des Bafana Bafana. Un simple « comment allez-vous » suffit à lancer une discussion sur le foot. Nous croisons Tando devant chez lui, t-shirt gris sans manches, cheveux longs tirés en arrière et des étoiles plein les yeux.
En 2010, on ne s'était pas vraiment qualifié car nous étions le pays hôte. Donc en réalité, on a patienté presque 24 ans. La dernière fois qu'on s'est qualifié sur le terrain, c'est en 2002. Je n'étais même pas né. Mais en tant que jeune sud-africain, je suis tellement heureux de voir mon pays participer à la Coupe du Monde. J'en suis sûr, c'est notre année.
Une qualification difficile, notamment après l'annulation de cette victoire face au Lesotho, car un joueur sud-africain n'était pas autorisé à jouer. Mais une qualification qui conclut aussi un beau parcours de l'Afrique du Sud, 3e place lors de la dernière CAN, ou encore finale de Ligue des Champions africaine pour les Mamelodi de Pretoria cette année.
C'est un tournant historique. Je pense qu'avant, on n'était pas encore assez organisé pour défier les grandes équipes. Aujourd'hui, nos joueurs sont plus que prêts.
Alors pour Cicelo, cette participation à la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis, c'est une victoire pour le pays tout entier.
Notre football va continuer de se développer. Nos joueurs vont se faire recruter dans de grands clubs. Nous, on veut voir plus de nos joueurs jouer à l'étranger, pas seulement pour le football, pour la fierté de tout un peuple.
En 2026, l'Afrique du Sud participera donc à sa 4e Coupe du Monde.
Valentin Hugues, donc, pour RFI. À noter que le président de la FIFA, Gianni Infantino, a congratulé les qualifiés africains de cette manière.
Congratulations, Bafana, Bafana. Congratulations to the Black Stars. Congratulations, South Africa. Félicitations à l'Algérie. Félicitations à vous, Lion de la Teranga. Félicitations à vous, le Sénégal, vous avez fait vibrer le monde entier. Mabrouk, Al-Jazair, à bientôt. Profitez bien. Bravo. See you soon. Bye bye.
Voilà donc un message de Gianni Infantino aux qualifiés africains pour la Coupe du Monde. En barrage, le Nigeria s'invite dans la fête. Et c'est une surprise, ils avaient très très mal commencé leur campagne. Ils ont toujours une chance de se qualifier à travers les barrages. Et ça satisfait le sélectionneur nigérian Eric Schell.
I'm so proud of my players.
Maintenant, nous irons au Maroc. Ce n'est pas encore terminé, c'est le commencement. Ce sera très difficile, les barrages. Mais ce soir, je suis très content pour mes joueurs. Ils ont joué un bon match. Je suis heureux aussi pour les fans qui nous ont apporté leur soutien pour la victoire. Encore une fois, les joueurs ont livré un match excellent avec Victor Osimhen, le meilleur buteur du monde. Tous les joueurs ont été bons. Pour moi, ils sont tous mes champions.
Eric Schell, le sélectionneur du Nigeria. En Europe, les Anglais sont les premiers qualifiés. 6 matchs, 6 victoires, 0 but concédé. Ça satisfait le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, Thomas Tuchel.
Il y avait une très bonne ambiance dans le vestiaire après le match. C'était notre rêve d'aller aux États-Unis et ça y est, on l'a fait. Et grâce à une nouvelle très bonne performance, 6 matchs, 6 victoires, sans prendre de but, On domine nos matchs, on y met de l'envie. Le dernier but est le parfait exemple. Kane va chercher le ballon dans notre camp après une erreur d'un de ses coéquipiers et à la fin, cela amène au but d'Eberchi Eze. Cela résume tout. C'est très bien et on est très heureux.
So, very happy.
Thomas Tuchel, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Les Anglais qui sont qualifiés. Les Italiens aussi sont sur une bonne voie, toujours pas qualifiés, mais une bonne série après un départ catastrophique de la squadra azzurra. Eh bien, Gennaro Gattuso a renversé un petit peu la vapeur. On l'écoute.
Aujourd'hui, très peu d'équipes dans le monde peuvent vraiment dominer un match du début à la fin. Il faut accepter de souffrir. C'est aussi ça, le football. Nous, on doit garder cette mentalité-là, être solide, savoir souffrir ensemble, bien couvrir le terrain et ensuite, quand on a le ballon, on a de la qualité, on sait jouer. À présent, les joueurs vont se reposer. Enfin, pas vraiment. Il faut espérer que Dieu nous garde, qu'on ne perde personne et qu'ils continuent à bien jouer avec leur club. On se reverra en novembre pour deux matchs sérieux. On donnera peut-être leur chance à certains qui ont eu moins de temps de jeu pour renforcer ce noyau. Cette équipe qui vit bien ensemble, sur le terrain comme en dehors.
Gennaro Gattuso, on souhaite que les Italiens bien entendu, soit également au Mondial. Je vous rappelle que la France n'est toujours pas qualifiée après un match nul contre l'Islande. Ça se jouera probablement contre l'Ukraine au mois de novembre. Et un mot de tennis pour conclure notre journal des sports. Aujourd'hui, Gaël Monfils a décidé de mettre un terme à sa saison sur une blessure. Le Français donc ne finira pas les derniers matchs donc de cette année 2025 et donne rendez-vous en milieu de saison 2026 qui restera sa dernière. Et oui, Gaël Monfils a également annoncé sa retraite en fin de saison 2026. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir Gaël Monfils, vous avez encore à peu près 12 mois pour en profiter en 2026. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez Le Français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
C'est jeudi et on passe au journal de l'économie et vous êtes en compagnie de Christophe Mallet et de Nicolas Perpich.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Allez, temps de parler économie à l'antenne de notre programme et comme à chaque émission avec Nicolas Perpich. Salut Nicolas.
Et salut Christophe.
Alors on va parler de fuel maintenant, de pétrole, enfin des appels cette semaine qui sont menés pour une enquête pour examiner pourquoi l'essence est tellement chère dans certains endroits de l'Australie et pas d'autres.
Ouais, voilà, et c'est tout à fait vrai. Si on fait une balade en voiture, un voyage... Dès qu'on quitte les villes et si on va dans des endroits un peu isolés en Australie, on voit que ça coûte vraiment, vraiment très, très cher. Si on est en plein milieu du Nala Harbour, par exemple, ça peut coûter vraiment cher ou dans les Kimberley ou ailleurs. Et c'est vrai que c'est des distances lointaines. Donc, c'est évident que ça va coûter un peu plus, mais apparemment, les prix sont encore plus hauts que ça. Vraiment plus que serait logique ou raisonnable. Et il y a des endroits où ça peut être 50 centimes plus pour acheter de l'essence dans une ville régionale ou rurale que dans les grandes villes. Donc là, il y a des appels pour une enquête par le Australian Competition and Consumer Commission. Donc ça n'a pas été encore donné le feu vert, mais ça pousse parce que vraiment l'industrie du fuel en Australie est non seulement très complexe parce qu'il y a tellement de compagnies différentes, d'importeurs, de distributeurs, de vendeurs, mais il y a pas beaucoup de transparence. Et par contre, on sait tous qu'il y a ce cycle en Australie ou si tu achètes de l'essence tous les mardis, c'est moins cher.
Oui, il y a des jours, et puis il y a des applications qui jouent justement là-dessus, où on peut bloquer son prix un certain nombre de jours avec un certain prix. Enfin, il y a un vrai business autour de ça aussi.
Il y a un vrai business, mais il y a un manque de transparence, en fait. Et donc là, il y a des accusations de ce qu'on appelle price gouging. Ça veut dire que les grandes compagnies qui font monter les prix juste parce que ils veulent gagner plus d'argent. C'est vrai que bon, ça coûte cher. L'Australie est un pays énorme, mais pas tout peut être expliqué par le prix du transport de l'essence non plus. Alors, si on regarde en moyenne, là par exemple dans la ville de Broome, le unleaded et le diesel, ça coûte 2,29 $ le litre. Et Broome, au Kimberley, en Australie occidentale, c'est presque tout le temps la ville la plus chère pour l'essence en Australie. Mais le comble, c'est que en fait, le fuel à Broome, ça vient direct de Singapour, au port de Broome. Donc il y a pas de transportation. Donc pourquoi c'est si cher? C'est pas raisonnable. Et quand on voit là dernièrement, les derniers 3 mois, le prix à Broome, c'était presque 58 centimes pour chaque litre plus haut qu'à Perth. Donc c'est fou. Et c'est la même chose dans des villes comme Weipa au Queensland et à Coober Pedy en Australie du Sud, aussi à Mount Isa au Queensland. C'est bien sûr, c'est un impact énorme pour les familles, pour les fermiers, pour tout le monde qui habite dans ces endroits. Ils sont prêts à payer plus, mais pas à des niveaux comme ça. Donc il y a beaucoup de questions importantes là.
Oui, ça efface totalement le côté égalitaire. Ça crée des zones totalement des zones franches et des zones où c'est beaucoup plus compliqué d'autant plus des zones où on peut pas ne pas avoir une voiture à Broome.
Tu peux pas éviter. Tu peux pas éviter. Donc voilà, c'est complètement inconsistant et logique et on peut pas vraiment voir ce qui se passe. Donc on a besoin d'une organisation avec des vrais pouvoirs pour pouvoir poser les questions et enquêter vraiment là-dessus.
Oui, absolument. Alors, on va passer d'un lobby à l'autre, parce qu'on va parler du tabac maintenant en Australie. Et une peur, c'est pas forcément que les gens arrêtent de fumer, c'est que les gens changent la façon dont ils consomment leurs cigarettes avec la hausse du nombre de cigarettes de contrebande.
Voilà, tout à fait. Et là, il y a des chiffres que j'avais jamais vus, qui sont assez étonnants. C'est que maintenant, en Australie, 64% de tout le tabac qui est consommé ici en Australie est du tabac illégal. Donc
c'est incroyable.
64%.
C'est incroyable.
Incroyable.
Incroyable. C'est deux tiers. C'est énorme.
Voilà, tout à fait. Et encore plus pour nicotine. La nicotine, c'est 82% est illégal. 82%. Donc, apparemment, en septembre, le marché illégal pour le tabac et nicotine, c'était une valeur d'à peu près $10 milliards.
Comment le gouvernement peut contrer ça? Parce que bon, il y a une politique. C'est très difficile. Mais on le sait qu'en Australie, il y a une politique où les prix du tabac sont sûrement les plus chers au monde, ou en tout cas pas
loin. Cher. On a des taxes sur le tabac. Et bon, le gouvernement avait imposé ce taxe avec l'idée de faire baisser le nombre de fumeurs, le pourcentage de fumeurs en Australie. Et c'est vrai que ça a en fait pas mal marché. Ça c'est vrai. Si on regarde par exemple depuis les années 90 par exemple, il y avait 25% de la population qui fumait. Maintenant on est à 10%. Donc ça a beaucoup baissé
Est-ce qu'on n'arrive pas à un niveau incompressible justement de fumeurs invétérés?
C'est sûr qu'on arrive à un niveau incompressible, mais aussi le problème c'est que le niveau de taxe sur les cigarettes, sur le tabac continue à monter. Donc ça devient tellement cher pour acheter une cigarette ou un paquet de cigarettes, que ça devient plus facile pour les gens d'en acheter d'une façon illégale. Parce que si tu veux payer, je crois que le taxe sur une cigarette, c'est presque 1,50 $. Je sais, c'est juste le taxe. Donc un paquet de cigarettes, je crois que ça je sais pas vraiment, mais je crois que ça coûte à peu près 40 $ au moins. Donc les gens se disent, bah pourquoi payer tout ça quand alors, je peux aller acheter du tabac illégal.
Voilà, alors on défend pas le fait qu'il faut fumer. Fumer c'est pas bien, il faut surtout pas fumer. Mais c'est vrai que là on parle d'un point de vue économique et le fait de créer ce niveau de taxation sur des produits tellement élevé qu'au bout d'un moment les gens rentrent dans l'illégalité. C'est une réalité.
Voilà. Donc en fait, c'est ça. Les taxes qu'on impose sur le tabac et les cigarettes, ça marche jusqu'à un certain niveau et après ça arrête de marcher. Et donc ça, c'est le problème qu'on a ici en Australie, parce que le gouvernement ne veut pas trop baisser les taxes sur les cigarettes parce qu'ils disent que quand même ça marche, ça empêche, ça réduit le pourcentage des Australiens qui fument, ce qui est, comme tu viens de dire, excellent, c'est ce qu'on veut, mais maintenant l'équilibre ne marche plus et ça vaut, les gens se disent ça vaut pas la peine, et voilà pourquoi maintenant on a 2/3 du tout le tabac consommé en Australie et du tabac illégal. Donc c'est vraiment un problème non seulement économique et financier, mais bien sûr de santé, c'est quelque chose compliqué pour le gouvernement, parce que dès qu'ils commencent à baisser les taxes sur les cigarettes, ils vont être accusés de pas vraiment vraiment être intéressés au niveau de la protection de la santé des Australiens.
Poussé par les lobbies, etc., etc.
Etc., etc. Voilà. Donc, entre-temps, le problème, c'est que le tabac illégal, c'est des grandes organisations criminelles qui importent ça, et c'est lié à d'autres criminalités, comme le blanchissement d'argent, bien sûr. Donc, c'est aussi pire, mais peut-être plus pire. Donc, c'est un problème très complexe. En même temps, c'est impressionnant que depuis les années 80, on a réduit la consommation de 25% de la population à 10%. Mais c'est 10% des Australiens, c'est quand même beaucoup, beaucoup de gens. Mais aussi, le problème, bien sûr, c'est que le tabac illégal, on ne sait pas ce qu'il y a dedans.
Voilà.
Quand les gens fument ça, on ne sait pas quel produit chimique il y a dedans. Il y a sans doute moins de filtration. Donc, il y a un autre problème de côté santé.
Ouais, ça ouvre la porte à plein d'autres problèmes. Ainsi va l'économie cette semaine. Merci Nicolas.
Merci Christophe.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Et on passe maintenant à un nouvel épisode de la série de l'histoire cachée de l'Australie et se focus sur les premiers ministres. Et cette fois, on parle de Billy Hughes avec le professeur Romain Fati qui est au micro de Grégory Pless.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, on va poursuivre notre exploration des principaux premiers ministres qui ont marqué l'histoire de l'Australie. Et aujourd'hui, on s'intéresse plus précisément à l'un des premiers travaillistes à avoir dirigé le gouvernement, un monsieur qui s'appelle Billy Hughes et qui, par ailleurs, a eu la plus longue carrière parlementaire de l'histoire. Il a siégé au Parlement pendant plus de 50 ans. Bonjour Romain Fati, vous êtes notre historien maison et c'est avec vous qu'on va parler de ce monsieur aujourd'hui.
Bonjour Grégory, merci de nous recevoir.
Alors, première chose que je voulais dire à propos de ce Billy Hughes, je l'ai présenté comme un travailliste, mais on va voir au cours de cette histoire qu'il a été membre d'un très grand nombre de partis politiques, et y compris peut-être jusqu'à l'inverse exact des travaillistes. Mais Avant de parler de tout ça, on va peut-être revenir sur ses origines. Donc Billy Hughes, il est d'origine galloise, mais il est né à Londres. Ses parents sont des gens plutôt humbles, en tout cas qui n'ont pas de très très grands moyens. Et en fait, il arrive à l'Australie en tant que jeune adulte. Il a déjà 22 ans. Il arrive d'abord à Brisbane et puis ensuite, quelques années plus tard, il descend vers le sud pour s'installer en Nouvelle-Galles du Sud. Et pendant toute cette période de jeunesse, en fait, il va occuper un certain nombre d'emplois qu'on peut qualifier de petits boulots, des boulots manuels. C'est pas du tout ce qu'on appelle un col blanc. Et je me demandais si cette expérience, on va dire au bas de l'échelle sociale, c'est ce qui explique que d'un point de vue politique, il va plutôt s'engager d'abord dans la vie syndicale et puis ensuite donc avec le Parti des Travaillistes qui, comme son nom l'indique, est plutôt le parti des travailleurs que celui des patrons.
Oui, alors tout à fait, il y a de ça, on va y revenir. Pour le situer, il est né en 1862 et il décède en 1952. Il a une très longue longévité de 90 ans. Et donc, comme vous l'avez rappelé, il est né en Grande-Bretagne. Et donc, pas du tout aberrant qu'il devienne Premier ministre australien, puisque ça fait partie de l'Empire. Il est Premier ministre entre 1915 et février 1923, 7 ans. À l'époque, c'est le mandat le plus long. Et pour revenir sur sa jeunesse, effectivement, malheureusement, il perd sa maman très tôt. Je crois qu'il a 6 ou 7 ans quand sa maman décède. Son papa est charpentier, il a travaillé au palais de Westminster. Donc c'est quelqu'un qui a quand même une certaine conscience de classe assez jeune. Il va être élevé par sa tante, puisque son père doit continuer à travailler, donc il est rapatrié chez les Gallois. Et il garde d'ailleurs une très bonne expérience de sa jeunesse et un amour pour la langue galloise. Et donc, voilà, assez jeune, on voit qu'il est plutôt bon à l'école et tout indique qu'il va devenir professeur. Et en fait, ça l'ennuie terriblement. Et il commence à voyager. Il va à Paris. Il a un petit peu de sous pour voir à droite à gauche. Enfin, on voit que c'est un jeune homme qui veut vivre, qui veut expérimenter. Il s'enrôle dans les Royal Fusiliers. Il a une petite formation, toute petite formation militaire. Et puis, à l'âge de 22 ans, il se dit je vais aller tenter ma chance dans l'Empire. Et il profite à l'époque. Vous savez, l'Australie avait des systèmes pour faire venir les Anglais et les Britanniques chez eux. Et donc, il leur payait le voyage, parce qu'il y a quand même 2 mois de bateau. À l'époque, ça coûte excessivement cher. Et donc, il profite de ce système pour aller en Australie gratuitement. Et quand il arrive à Brisbane, effectivement, il fait tout un tas de petits boulots. Alors là, on a un peu du mal à séparer la vérité de la légende, parce que, comment dirais-je, le principal intéressé lui-même ne nous a pas beaucoup aidés, en peut-être se créant certains petits boulots qu'il aurait occupés parce que politiquement, c'était avantageux pour lui. Mais enfin, on sait que il a conduit des bêtes, qu'il a travaillé dans des fermes, qu'il a ramassé des fruits, qu'il a été navigateur, qu'il a travaillé pour un forgeron, qu'il a travaillé sur un bateau, qu'il a été chef. Ça, a priori, ça fait partie des petits boulots qui ont été prouvés. Et c'est dans une période assez rapide, ça dure quelques années, donc il change constamment de travail, il voyage beaucoup à pied, il a fait des étendues assez colossales du Queensland jusqu'en Nouvelle-Galles du Sud, et effectivement, dans ses pérégrinations, si vous voulez, il rencontre beaucoup de travailleurs de classe sociale très humble. Et en fait, il voit bien que socialement, il a du mal à percer. Et donc, petit à petit, en fait, il descend vers le sud et puis il s'installe à Sydney. Et en s'installant à Sydney, c'est là qu'il commence à s'intéresser, ou du moins, peut-être qu'il était intéressé avant par la politique, mais à rejoindre des mouvements de travailleurs. C'est le début du parti travailliste en Australie, donc l'équivalent en France, on pourrait dire, du parti socialiste. Cette gauche commence à s'assembler, et il fait partie très tôt de ces mouvements. si bien qu'il a le bénéfice de l'ancienneté et que assez rapidement, il devient une petite personnalité politique locale et s'investit dans le Parlement de Nouvelle-Galles du Sud.
Et alors, on va accélérer de quelques années, mais dans le précédent épisode où on parlait d'Alfred Deakin, on a expliqué que, en gros, sa carrière politique s'est terminée après une tentative de rassembler la droite, pour le dire un peu rapidement, et empêcher l'élection des travaillistes. Une tentative qui a échoué, puisque donc les travaillistes vont arriver au pouvoir pour la première fois en 1911. Et c'est à ce moment-là que Billy Hughes va pour la première fois devenir ministre. Et quelques années plus tard, en 1915, donc on est déjà en plein milieu de la, enfin on est en pleine Première Guerre mondiale. C'est là, dans cette période de crise intense, qu'il devient premier ministre. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, en plus il va y rester. À l'époque, c'est un record de longévité, près de 8 ans en poste. Et non seulement il incarne un peu la nation dans cette période très tendue, mais il se fait aussi beaucoup remarquer sur la scène internationale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui sur cette période ?
Alors là, il faut se replonger dans le contexte de l'époque. On est quand même 10 ans après la fédération en Australie. C'est un tout petit gouvernement, c'est une toute nouvelle fédération, si bien qu'il y a encore énormément de prérogatives qui sont soit liées à Londres, soit liées aux nouveaux États, la Nouvelle-Galles du Sud, le Victoria, etc. Et donc, le gouvernement fédéral australien, tout est en train de se construire, tout est en train de se faire, c'est vraiment les balbutiements, si vous voulez. Ça n'a pas l'importance que ça aujourd'hui. Mais, et c'est ça qu'il faut introduire, Hughes, en tant qu'homme politique de cette époque, a un impact majeur. On a parlé de Deakin la semaine dernière sur la création de tout un tas d'institutions sur lesquelles on voit bien sa plume ou sa trace. Hughes accroît les pouvoirs du gouvernement fédéral. Et en fait, pour ce faire, il bénéficie de la guerre. Et sous le gouvernement Fisher, il y a le War Precaution Act, qui est, si vous voulez, une espèce de Patriot Act de l'époque où, en fait, le gouvernement a des droits accrus pour préserver la nation et pour préserver le gouvernement du fait du contexte de guerre. Et en fait, ça permet au gouvernement australien de si vous voulez, s'accaparer un certain nombre de pouvoirs vis-à-vis de législation sur la défense, sur la police, sur la taxation, sur plein de choses. Et Hughes, effectivement, commence en tant que ministre des Affaires étrangères, mais alors c'est un tout petit poste à l'époque, puisqu'en fait les Affaires étrangères, grosso modo, sont gérées depuis Londres, mais devient Attorney General, donc l'équivalent du ministre de la Justice, du ministère de la Justice, si vous voulez. Donc il monte en grade progressivement, et puis il devient surtout le second du Premier ministre Fisher. Fisher qui d'ailleurs est un peu à bout physiquement et qui finit bon gré mal gré par passer la main. Et c'est comme ça que Hughes arrive au gouvernement en tant que Premier ministre. C'est-à-dire qu'il a monté les échelons progressivement, qu'il s'est rendu indispensable et qu'il a déjà une certaine notoriété auprès des Australiens. Il est déjà identifié comme quelqu'un de jeune qui en veut, qui est prêt à aller se battre. Et si vous voulez, cette personnalité séduit.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et alors, je voulais vous avez expliqué comment toute cette période voit les pouvoirs du gouvernement fédéral s'accroître, mais on sait que cette période de la Première Guerre mondiale, elle a beaucoup marqué les Australiens. On avait consacré plusieurs épisodes à Anzac Day et ce que ça représente. Et vous nous aviez dit que ça a été instauré en 1915 et que c'est vraiment cet événement et cette commémoration qui a créé pour la première fois un vrai sentiment d'unité nationale et de distinction par rapport à l'Empire britannique et à Londres. Il a joué un rôle particulier, Hughes, dans tout ça.
Oui, tout à fait. Et je ne me suis pas encore lancé sur le côté international parce qu'on va y revenir. Il faut d'abord, je pense, poser les jalons. Et un de ces jalons, c'est effectivement ce contexte Première Guerre mondiale qui est absolument crucial à de très nombreux égards. La première chose qu'il faut dire, c'est que Hughes est totalement fidèle à la cause de la guerre. C'est quelqu'un qui est très remonté contre l'Allemagne, qui veut défendre l'Empire et qui donc veut envoyer des troupes. Et là, sous son mandat de Premier ministre, se passe une des campagnes les plus violentes politiquement en Australie au niveau fédéral qui s'était jamais déroulée, c'est celle de la conscription, parce que les Australiens sont volontaires. Et le problème du volontariat, c'est qu'en fait, il y a très peu de gens qui se portent volontaires. Et donc Hughes dit, on n'a pas assez de nouvelles recrues, on ne fournit pas assez d'hommes à l'Empire, comment on pourrait s'y prendre? Je souhaite instaurer la conscription, or la Constitution me l'interdit pour autre chose que de la défense nationale, c'est-à-dire sur le territoire australien. Donc il organise un plébiscite pour pouvoir essayer d'avoir un momentum politique pour changer les règles, et son parti se divise sur cette question. Se divise au point que le parti travailliste exclut son leader et premier ministre, Billy Hughes. Et vous pensez qu'il se serait dit, mon parti me vire, j'arrête, je rentre, je me mets au pas, j'écoute. Non. C'est quelqu'un qui part en brûlant la maison et en sauvant les meubles qui peut. Et il part avec un certain nombre de fidèles et il s'associe à, grosso modo, un parti de centre-droit, de droite modérée, pour créer un nouveau parti qui est une sorte d'un peu d'union sacrée, si vous voulez, où le but, c'est de continuer la guerre et de donner suffisamment d'hommes australiens à l'armée. Et donc, ayant perdu un premier référendum en 1916, s'étant fait jeter de son parti comme un malpropre, il en réorganise un après une victoire électorale assez surprenante en 1917, et en fin 17 réorganise un second référendum, enfin plébiscite, où les Australiens disent non une nouvelle fois. Ce qui est important de retenir, c'est que ces deux plébiscites, la division est, comment dirais-je, entre le oui et le non. Le non l'emporte, mais de façon très faible la première fois, un peu moins faible la seconde, mais le pays est divisé. Mmh. Il est vraiment divisé là-dessus, et c'est un moment, si vous voulez, qui a marqué les consciences australiennes, qui a un peu entaché le grand mythe de la Première Guerre mondiale, d'unité nationale, parce qu'en fait, non, c'est un pays qui est divisé et qui ne sait pas si elle doit forcer ses hommes à aller se battre ou pas. Et pendant ce temps-là, Hughes continue à consolider en fait son pouvoir et son équipe en l'élargissant. Et au même moment, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'est souvent un premier ministre à distance. C'est-à-dire que pour défendre les intérêts de l'Australie, il est obligé de se rendre à Londres. Et à l'époque, il faut beaucoup de temps pour voyager. Et donc, on n'y va pas pour une semaine, comme on voit aujourd'hui, ou 4 jours. Il y reste plusieurs mois. Il participe à un certain nombre de conférences aussi, vis-à-vis de comment traiter l'Allemagne, quel sera le futur après la guerre. Et donc, il se forge aussi cette personnalité à dimension internationale, et en parallèle, succès total avec les Australiens, il rend visite à plusieurs reprises aux soldats sur la ligne de front. Les soldats qui l'appellent d'ailleurs le petit digger. Le digger, c'est le nom australien pour l'équivalent du poilu.
Ouais.
Il a à la fois, si vous voulez, cette personnalité qui est attachante pour certains Australiens, de quelqu'un qui n'abandonne pas, qui va aller se battre, qui est un très bon orateur, quelqu'un qui sait aussi les représenter sur la scène internationale avec des figures politiques les plus importantes du moment, et en parallèle, quelqu'un qui est relativement bien aimé des soldats. Donc, il a quand même une assiette politique du fait de la population, tout simplement, c'est-à-dire que les Australiens le trouvent plutôt bon dans ce qu'il fait.
Et ce, malgré, comme vous le disiez, qu'il ait défendu ardemment une politique, en l'occurrence la mise en place de la conscription pour un conflit dans lequel l'Australie n'est pas directement impliquée, qui divisait profondément la société. C'est d'autant plus surprenant, du coup, qu'il ait joui d'une telle popularité. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On revient d'ici quelques jours pour aborder la deuxième partie de cet épisode consacré à Bill Hughes. On s'intéressera plus précisément à son bilan sur la scène internationale puisqu'il est l'un des premiers premiers ministres australiens à se faire remarquer et surtout à se distinguer en tant qu'Australien de la Grande-Bretagne. À très bientôt.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Et enfin, d'émission un rappel des titres du journal de ce jeudi. Les camions d'aide humanitaire continuent d'affluer vers Gaza et Israël. Israël avait auparavant menacé de maintenir fermé le point de passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte et de réduire drastiquement l'aide humanitaire, estimant que le Hamas restituait les corps des otages trop lentement. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré avoir reçu 45 corps palestiniens supplémentaires d'Israël portant des traces, je cite, de torture et d'exécution. Et puis, selon des experts juridiques, le fait que la Nouvelle-Galles du Sud ait atteint un niveau record de décès des membres des Premières Nations en détention, eh bien, cette nouvelle devrait alerter les gouvernements. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous samedi et dimanche à 13h. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et Instagram. Belle journée, à bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.